C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Moukati avec vous. Bienvenue sur Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis à partir de 19h temps universel sur la voie de l'Amérique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. Lawal Zin Kosugo, toujours présent avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée.
On sera à Kinshasa pour retrouver Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la voie de l'Amérique.
Amine Birouk nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis on prend la direction de Columbus dans l'Ohio pour retrouver Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Ce soir, nous allons parler une fois encore des élections à la Fédération Ivoirienne de Football. Le processus électoral est à l'arrêt. Pendant ce temps, le football féminin se modernise au Maroc. Les autorités ont mis de gros moyens pour le rendre professionnel. Enfin, la CAF a tenu sa première réunion de collaboration avec l'Interpol Project Stadia. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous. On connaît désormais les clubs du Final Four de la Champions League de l'UEFA. Le Bayern, tombeur du Barça, Leipzig, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Direction Casablanca. Amine Birouk, le Paris Saint-Germain renverse l'Atalanta de Bergane et file en demi-finale 25 ans après. Le club français jouera en demi les Allemands de Leipzig qui ont désillusionné les Espagnols de l'Atlético Madrid.
25 ans, c'est la période qui sépare la première et dernière apparition du Paris Saint-Germain à ce stade de la compétition de celle qui vient d'arriver ou de se produire cette semaine contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. À l'époque, c'était Luis Fernandez, c'était l'époque de Canal+. L'arrivée des Qataris devait accélérer la transformation du Paris Saint-Germain en un grand d'Europe. La chose s'est fait attendre plus longtemps que prévu et aujourd'hui, c'est une équipe qui arrive à toucher à son but, c'est-à-dire gagner enfin une compétition européenne. La première étape a été franchie face au club italien, certes difficilement sur le score de 2-1, avec une mention spéciale pour Neymar, pour le coaching avec l'entrée de Mbappé qui a fait bouger les choses dans les dernières minutes du match. Maintenant, il va falloir que Paris puisse montrer un tout autre visage, un peu plus convaincant face à l'équipe allemande de Leipzig, qui a réussi la prouesse d'éliminer l'Atlético de Madrid. Attention à cette équipe allemande, elle a montré de très beaux atouts, une bonne organisation, une capacité à tenir le ballon et surtout à résister aux assauts des Colchoneros lors des dernières minutes du match ce jeudi. En tout cas, Paris a une opportunité historique d'aller en finale et ça devrait peut-être se concrétiser mardi prochain.
Valdo, pour la grande affiche, le Bayern donne une raclée au FC Barcelone, un score qui restera dans l'histoire pour toujours.
Élisée, un score record qui écrit de nouveau l'histoire du Barça en noir et c'est dans une dynamique de déception depuis 2016. 5 ans sans titre en Ligue des Champions, mais surtout 5 bonnes années de déception et voici l'humiliation qui doit sonner la révolte. La défense a toujours été les maillons faibles de cette formation. Ils avaient réussi à trouver l'équilibre en privant leurs adversaires du ballon pour ne pas trop subir. Mais là, le Barça a perdu son tiki-taka depuis bien des temps. Conséquence, aujourd'hui, ils en sont à 8 buts contre 2. J'ai craint fort que cela ne demeure encore ainsi, si et seulement si la vraie révolution tarde à être mise en place. Les réformes s'imposent, Barcelone incapable de répondre présent face à un ogre en Ligue des Champions. Il ne fait plus peur, il leur faut réinventer les choses, sinon le football. J'ai craint fort que cette formation ne retourne dans ses travers des années 90 et connaître et pire que ces années-là. Avec cette humiliante défaite, tout doit changer au sein de cette formation.
Amédine, l'Olympique Lyonnais se paie Manchester City et permet à la Ligue 1 d'avoir deux clubs dans le dernier carré.
Tout à fait, Élisée. Il faut dire que c'est une première, hein, c'est historique, car c'est pour la première fois qu'on retrouve deux représentants tricolores au niveau de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais Élisée, il faut savoir que Lyon a mérité cette qualification puisque Lyon a sorti une performance double. Je devais même dire triple excellent puisque les Gones ont vraiment sorti le grand jeu face aux Citizens. C'est vraiment fantastique ce que les Lyonnais ont réussi. Pourtant, City était favori pour cette rencontre, mais comme on dit, un match n'est jamais gagné d'avance et les Français l'ont prouvé de fort belle manière. Il faut dire que cette élimination de City constitue quand même un échec pour Pep Guardiola qui n'arrive pas à franchir le cap des quarts de finale depuis qu'il est arrivé à City depuis 2016. C'est vraiment un échec pour lui. Guardiola qui n'arrive plus à tirer son épingle de jeu depuis qu'il a quitté le Bayern, depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, parce qu'avec le Bayern c'était la même chose. L'objectif était de remporter la Ligue des Champions. Ça n'a pas été le cas avec City également. C'est un fiasco total. Élysée.
Lawal, de très belles affiches en perspective en demi-finale. Allemagne-France, pourrait-on dire?
Oui, Élysée, il faut franchement dire que les Français, pour une fois, se retrouvent à deux en demi-finale de la Champions League. 24 ans après pour Lyon et 25 ans pour le Paris Saint-Germain. Et ce qui est surprenant, c'est d'abord le fait que l'Olympique lyonnais puisse se payer d'abord la Juve et ensuite Manchester City, l'un des prétendants au titre. Donc, le Bayern Munich a intérêt à faire très attention. Pourquoi ne pas rêver d'une affiche française ou une finale franco-allemande? Maintenant, le plus important, c'est la forme des clubs français qui ont arrêté le championnat depuis longtemps, qui n'ont pas repris, mais qui
ont seulement disputé des matchs
amicaux et qui se retrouvent à cette étape-là. Ça veut dire que les Allemands ont intérêt à faire très attention. Maintenant, si l'FC a réussi à déboulonner la défense de l'Atlético
Madrid,
défense qu'on n'arrive pas à pénétrer, si on a réussi à éliminer l'Atlético, le Paris Saint-Germain a intérêt à faire très attention et surtout que Navas est incertain. Voilà donc affiche palpitante en perspective Élysée.
Au Maroc, le football féminin sort de l'amateurisme pour retrouver le professionnalisme. Un plan a été établi et signé entre la fédération, la Ligue de football féminin, les ligues régionales et la direction technique nationale. Alors, Amine Birouk, c'est une grande révolution pour un football féminin, je dirais, négligé en Afrique, surtout avec les dernières décisions de la CAF.
C'est vrai que c'est une révolution pour le football marocain. Elle avait été esquissée en tout début de saison lorsque le président de la fédération, Fawzil Khaja, avait annoncé qu'un de ses plus gros défis et surtout un de ses plus grands regrets lors de son premier mandat était de ne pas avoir réussi à mettre sur les bons rails le football féminin. Ça s'est esquissé à travers la création de Ligue de football féminin en tout début de saison dernière. Et puis le process s'est accéléré lors de ces dernières semaines avec la signature d'un contrat programme qui fixe des objectifs avec les obligations de la fédération et celles de la Ligue, les droits des joueuses qui vont devoir maintenant relever le défi. Il va falloir remonter le niveau du football marocain, mais ce qui est certain, c'est que les joueuses vont devenir maintenant professionnelles, qu'elles seront payées avec un salarié cap de la part de la fédération, que le process d'accélération de la modernisation des clubs a été entamé. Sur le plan technique, la nomination de l'américain Lindsay Kelly va porter une expertise, un savoir-faire, celui du football made in USA au football marocain, et on verra dans quelle mesure, à moyen terme, ce championnat féminin sera plus compétitif. Et dans quelle mesure les joueuses marocaines et les équipes marocaines, les équipes nationales, les jeunes et l'équipe nationale A vont devenir compétitives au niveau continental.
À Medine Sy, le football féminin est en train de prendre une autre dimension au Maroc.
Je pense, Élisée, que le fait de passer du football amateur au football professionnel est une très bonne chose pour le Maroc, car le fait d'organiser un championnat de première division, un championnat de deuxième division, mais également des championnats régionaux pour les U17 constituent vraiment une très bonne chose, parce que ça peut aider à développer le foot féminin au Maroc. Et puis, cerise sur le gâteau, les joueuses vont être rémunérées. Je pense que c'est une première en Afrique. Bon, si jamais le Maroc réussit ce grand pari, ça peut aider quand même le foot féminin africain à prendre son envol, puisque le foot féminin au niveau de l'Afrique, ce n'est pas tellement ça, mais j'ai dit chapeau bas à ces Marocains qui ont pris cette initiative. J'espère que ça va réussir, Élysée.
Valdo, c'est une bonne nouvelle pour les Nigérianes, Camerounaises, Ghanéennes et autres
qui s'expatrient en Europe surtout, vu la barre fixée pour les rémunérations.
Élisée, le Maroc passe à la vitesse supérieure. Avec ses conditions de travail, le football féminin va connaître une nette évolution et si possible une révolution véritable. Il y a une nette volonté d'améliorer ce secteur puisque les moyens injectés les prouvent à suffisance. Il leur faudra aussi s'attendre à un afflux de filles du continent qui viendront largement contribuer à cette révolution s'il faut que cela soit ainsi qualifié. Objectif fixé, la Coupe du Monde en national. En club, avec l'avènement de la Ligue des Champions féminines, le Maroc tient à imprimer l'image de la Botola messieurs chez les filles, d'où les conditions doivent être optimales afin de rivaliser d'ardeur avec les adversaires. Je pense que ces moyens sont à la taille des ambitions et bien entendu, cela devait insuffler un vent de changement dans l'organisation des championnats et des conditions des filles au niveau de certains pays, les cas de la République démocratique du Congo. Tout dépendra de l'identité et de la volonté de chaque pays à contribuer réellement au développement du football féminin.
Le football ivoirien toujours dans l'impasse. Le processus électoral à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est à l'arrêt. En cause, la candidature d'un homme, Didier Drogba. La commission électorale a d'ailleurs été sommée par le président sortant, Sidi Diallo, de suspendre le processus électoral en raison de son incapacité à divulguer la liste des candidats dans le temps réglementaire. Le triste feuilleton des élections à la FIFA se poursuit sous fond de non-respect des tests et de corruption. Pour essayer d'y voir plus clair, suivons cette correspondance de Siriki Baro depuis Boaké.
Après le dépôt des dossiers de candidature, la commission électorale, pilotée par l'ex-ministre René Diby, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le nom des candidats en lice pour l'élection du 5 septembre. Même si le nom de Didier Drogba n'a pas été explicitement évoqué, tout le débat porte autour de la validité de son dossier. Le vice-président de la commission électorale, Mamadou Soumaoro, accusé d'avoir reçu des pots de vin pour valider la candidature de Didier Drogba, se défend en avançant la thèse d'un processus électoral biaisé dès le départ.
Personne n'a reçu de la candidature, n'a pas besoin de faire comme moi. Je suppose que ce n'est pas fait. Je ne peux pas rentrer dans les secrets de la délibération. Il y a des candidats qui ne verront même pas leur candidature acceptée. Il y a des candidats pour vous que vous connaissez même. La responsabilité même n'était pas bien. Parce que quand tu es président d'une fédération et que tu es candidat, tu démissionnes avant de déposer ta candidature. On n'a même pas dit non, on va pas dire ça. Est-ce que ça va nous dire encore qu'on n'a pas respecté les textes? Et je le fais.
Répondant à Mamadou Soumaoro, le secrétaire de la commission électorale, Sam Etiassi, affirme que certains membres de la commission électorale ont volontairement modifié les résultats des délibérations qui ont eu lieu le jeudi 6 août, chose qui n'est pas acceptable selon lui.
Nous sommes donné rendez-vous pour que le samedi, on vienne signer tous les papiers. C'est alors que des éléments extra-textuels viennent nous demander de regarder à cause de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire qu'on laisse tout le monde partir aux élections. J'ai dit attention en tant que secrétaire général de la commission, chargé de faire appliquer les textes de la fédération, si d'aventure vous allez dans ce sens, je ne signerai pas. On parle de blocage, je n'ai rien bloqué. J'ai dit je ne signe pas. Si je ne signe pas, vous ne pouvez pas notifier aux candidats.
Dans cette totale incompréhension, le président sortant, Sidi Diallo, a fait suspendre le processus électoral. Raison évoquée, le défaut de notification par la commission électorale dans le délai prescrit par les dispositions du code électoral de sa décision aux différents candidats à la présidence de la FIFA. Il a d'ailleurs convoqué une assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir le 29 août prochain. Une décision contestée par Mamadou Soumaoro, vice-président de la commission électorale.
La commission électorale n'est pas dissoute, elle ne peut pas être dissoute. La FIFA reste en place pour liquider les affaires courantes. Mais la FIFA ne prend pas de décision.
Didier Drogba, qui s'était empressé de publier la validation de sa candidature sur son compte Twitter, a donc vite déchanté. Dans le camp de Sori Diabaté, on semble ne pas être concerné par le débat actuel. Son équipe et lui continuent leur campagne à l'intérieur du pays pour rallier le maximum de voix. Quant au candidat Idrissa Diallo, il a par voie de presse appelé au strict respect des règles qui régissent le fonctionnement de la FIFA ainsi que les règles de la CAF et celles de la FIFA. Même s'il n'est pas encore question du report des élections, la date du 5 septembre, date annoncée pour la tenue des élections, semble assez peu probable. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
Amine, le président sortant Sidi Diallo a-t-il le droit de suspendre le processus électoral ?
L'impression, c'est que la démocratie en Afrique, elle doit se gagner au forceps et que les processus électoraux transparents, même à la tête des fédérations sportives, sont beaucoup plus compliqués que les processus d'ordre politique. On comprend l'ambition des caciques qui sont au pouvoir depuis de très nombreuses années, la peur du changement, la peur de la nouveauté, la peur de l'intrus, celui qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, il s'agit de Didier Drogba. Et ce qui est incompréhensible, Élysée, c'est la volonté du président sortant de suspendre le processus électoral. C'est incompréhensible. Il va falloir, évidemment, une médiation, faire en sorte que toutes les parties du football ivoirien puissent tirer les leçons et les conséquences de ce refus. Il va falloir qu'elles s'accordent, qu'il y ait des alliances, qu'il y ait une solution pour sortir de cette impasse et surtout que ces deux commissions électorales puissent peut-être passer la main à une autre beaucoup plus transparente.
Ahmedine Sy, dans le contexte actuel, la commission électorale peut-elle vraiment continuer le processus en toute indépendance?
Vous avez raison, Élysée, en disant que le football ivoirien est toujours dans l'impasse. Tout ça à cause de la candidature de Didier Drogba. Je pense que c'est une farce, hein, c'est une farce de mauvais goût, hein, il faut le dire comme ça. Donc comme tout est à refaire, parce qu'il y aura une nouvelle assemblée générale extraordinaire, donc c'est un retour à la case de départ et je pense que Didier Drogba, qui était un peu en retard, va bien se préparer pour aller à l'assaut de ces dinosaures qui ne veulent pas de sa candidature. En tout cas, c'est triste de voir en Afrique des dirigeants se comporter comme ça pour empêcher une icône comme Drogba de se présenter. C'est vraiment triste, Élysée.
Valdo, le vice-président de la commission électorale, Mamadou Soumaoro, a dit lors d'un point de presse que sur la question du double parrainage, vu qu'aucun test n'en parle, alors cela ne dérange pas. Et pour le citer, il dit « En droit, ce qui n'est pas interdit est permis ». N'est-ce pas là le véritable problème ?
Élysée, l'interprétation des textes, l'esprit et la lettre, c'est des pareils cas qui poussent à la révision des textes, hein, puisque chacun va l'interpréter à sa guise pour assurer la défense de son opinion, qui pour faire valider ou faire tomber l'une ou l'autre proposition. D'autres vous diront que ce n'est vraiment pas à l'absolu que ce qui n'est pas interdit soit d'office permis, mais est-il que plus cette situation tire en longueur, mieux les indicateurs prouvent que la candidature de Didier Drogba serait donc validée et c'est ce qui divise, puisque sa validation sort du contexte normal. Si tel est le cas, ça serait donc une première bataille remportée par ces derniers avant même que ne se tiennent ces élections, ce qui peut lui donner la possibilité de remporter ces élections. Il faut rêver contre les systèmes qui est encore en fonction, notamment les deux vice-présidents, d'où il faut tout faire pour ne pas aller aux urnes, pour ne pas lui donner la possibilité de l'emporter.
Lawal, il y a visiblement de fortes tensions entre les membres de cette commission, notamment entre le vice-président Mamadou Soumaoro et le secrétaire général Sam Etiassé, proche d'ailleurs de Souris Diabaté. Au regard de cela, est-ce que cette commission peut mener le processus électoral jusqu'à son terme?
Ça va être très compliqué si déjà en interne on n'arrive pas à s'entendre entre membres du bureau exécutif et si quelqu'un, fût-il président, doit interférer dans le processus, il y a problème. Les gens devraient peut-être s'asseoir, régler les problèmes qui doivent être réglés et continuer le processus. On ne doit pas l'arrêter. Maintenant, si il y a déjà interférence ou ingérence de l'un des membres influents de la fédération dans le processus, s'il y a des soupçons de corruption dans ce même processus et si entre-temps, on avait déjà parlé de cette question de double parrainage parce qu'il y a trois candidats au moins qui ont reçu des parrainages de mêmes acteurs par rapport à leur parrainage. Donc si déjà, dans le processus, on a accepté que le même club, par exemple, puisse parrainer trois candidats différents, ce qui en soi est une mauvaise chose. Si on a accepté que les candidats soient parrainés par les mêmes personnes, où est le problème? Si on l'a accepté au début, on ne peut pas changer les règles de jeu en cours de jeu. Voilà. Et quand je cite le vice-président Soumaoro qui dit qu'en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc si déjà lui-même il arrive à le dire, je pense qu'on doit, à l'étape actuelle, dissoudre la commission, reprendre et élire de nouveaux membres de la commission pour continuer le
donc,
processus.
Un individu peut se lever pour dissoudre ce qu'une assemblée générale a établi.
C'est pas l'individu en soi. C'est pas l'individu. Parce que quoi qu'on fasse, aujourd'hui, il y a déjà une crise. Il y a déjà soupçon de corruption. Il y a déjà soupçon de favoritisme d'un candidat par rapport aux autres. Rappelez-vous, l'un des candidats a commencé par faire campagne. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que lui se donne le droit de commencer la campagne électorale au moment où on n'a pas encore la liste définitive, on n'a pas encore publié la liste des candidats. Donc il y a comme un déséquilibre au départ de la course. Il y a comme quelqu'un qui se croit à tout permis, qui se fait tout, pendant que les autres n'ont pas le droit de le faire. Donc s'il y a ces éléments-là, me semble-t-il, il faut dissoudre la commission. Ce n'est pas l'individu président sortant qui est mise en cause là, mais c'est le processus en lui-même. Et quoi qu'on fasse, si on ne dissout pas cette commission, si on ne met pas en place une commission ad hoc pour gérer le reste du processus,
voilà.
Là, quoi qu'on fasse, on va toujours trouver des contestations à l'issue du processus, parce qu'il y a déjà comme un déséquilibre des forces au départ du processus, ce qui ne va pas apaiser le foot ivoirien avec cette tension qui couvre.
Maintenant, à quoi peut-on s'attendre aux sorties de l'Assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 29 août prochain?
Je crois que ce qui doit être fait pour ramener la balle à terre complètement, laisser passer les choses, on doit d'abord décider de ce que les 4 candidatures acceptées et reçues par la commission puissent être validées.
Ce sera difficile.
Ce sera difficile.
Avec ce qu'on voit, on sent réellement qu'on s'oppose à certains candidats.
C'est un seul individu, c'est une seule candidature qui dérange, qui gêne, qui bouscule. Mais ce que les gens oublient, quelle que soit la force populaire que Drogba, pour ne pas le citer, quelle que soit sa force populaire, ce n'est pas les supporters qui vont voter. C'est les acteurs du foot qui vont voter, même s'il y a une association de supporters qui parrainent également, mais là, c'est les acteurs qui votent. Et on doit pouvoir, si on ne craint pas quelque chose, on doit pouvoir laisser cette candidature prospérer et ne pas stigmatiser une candidature et créer des clivages inutiles. Déjà que le pays a des problèmes
politiques,
il ne faut pas en rajouter avec des problèmes qui ne devraient pas exister. Parce que Drogba a le droit, comme tout Ivoirien, aimant le foot, de se porter candidat. Il a candidaté et aujourd'hui, on a peur qu'il puisse gagner. Disons les choses comme ça, il faut lui barrer la route par tous les moyens.
Les gens devraient avoir confiance à leurs délégués, puisqu'ils ont eu presque tous les parrainages. On a cité des clubs qui sont derrière, notamment Souri Diabaté, mais pourquoi encore avoir peur de Didier Drogba qui n'a réuni que 8 parrainages?
Non, on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gens peuvent changer.
Ah bon?
Et on connaît les processus électoraux chez nous. Les gens, s'ils ont peur, si tant est qu'ils ont peur, ils n'ont qu'à demander des procurations. Là, les procurations vont jouer le rôle. Mais là, si on veut moderniser le foot ivoirien, il faut que tous les acteurs se mettent ensemble.
Amine Birouk, quelles sont les alternatives dont dispose la FIFA pour mettre fin à cette impasse?
L'alternative serait tout simplement revoir le processus électoral de fond en comble. Ça ferait peut-être perdre quelques semaines au football ivoirien, mais ça lui ferait gagner de très nombreuses années, quitte à ce que les présidents de clubs, toutes les bonnes volontés, l'instance de tutelle qui doit être le ministère des Sports, puisse faire une médiation, quitte à changer peut-être de décideur au sein de cette instance électorale. Il va falloir quand même ne pas barrer le passage à ce 109 apporté par Didier Drogba, l'inclure dans le système, faire en sorte qu'il apporte ses idées. Peut-être ça passerait aussi par une alliance entre Didier Drogba et d'autres castings du football ivoirien, faire fusionner les listes, ça pourrait être aussi une solution, car l'objectif c'est de sortir de cette impasse et de permettre le décollage du football ivoirien.
Amine Birouk, on revient à vous. La CAF a tenu sa première réunion de collaboration avec l'Interpol, Projet Stadia. Les deux parties ont convenu de promouvoir la sûreté et la sécurité en Afrique lors de l'organisation de grands événements sportifs.
Une excellente initiative. J'espère tout simplement qu'elle sera suivie d'effets, de pratiques, et que nos experts en matière de sécurité pourront profiter de l'expérience d'Interpol, notamment lors de l'organisation des rencontres de Coupe d'Afrique des Nations, de compétitions africaines des clubs. On se rappelle les événements tragiques, fâcheux de Rades lors de la finale entre Espérance de Tunis et Wydad Casablanca. On n'a pas du tout envie que ça puisse se répéter sur nos stades. Et quoi de mieux que l'expertise des officiers d'Interpol pour pouvoir mieux appréhender ce genre d'événement et surtout avoir un standard de règlement
de ce genre de conflit au niveau africain qui soit conforme à cette expertise d'Interpol.
Sporama qui s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour le même plaisir. Au revoir.